Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon féculents, conserves et animalerie. Comme le pack de 8 sachets de pâté pour chat stérilisé Purina One qui passe de 5,13€ à 3,99€, soit 22% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
8 x 85g, prix baissé à compter du 17 juin 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC.
Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes commissaire européen au marché intérieur et vous venez notamment pour fêter une bonne nouvelle tout à l'heure et pour accueillir des patrons à Versailles, puisque vous serez à partir de midi dans ce fameux sommet qui s'appelle Choose France, choisissez la France. Et il y en a beaucoup qui l'ont choisi visiblement, puisque l'annonce a été faite cette nuit. Un millésime de tous les records, dit Emmanuel Macron. 15 milliards d'euros vont donc être investis en France. Des contrats qui seront signés tout au long de la journée avec ses patrons reçus en grande pompe à Versailles. 15 milliards d'euros, ça représente quoi? Est-ce que c'est un effet de loupe? Est-ce que c'est des réalités? Quel genre de réalité? Des usines, des emplois? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ce sont d'abord effectivement des emplois, des investissements. C'est derrière des emplois. Ce sont des emplois, c'est très important justement dans ce millésime cette année. Ce sont des emplois majoritairement industriels et ça va complètement dans le cadre de la réindustrialisation de l'Europe. Alors pourquoi suis-je ici aujourd'hui, Apolline de Malherbe?
Oui, parce que vous êtes français, mais vous êtes le commissaire européen. De tous les Européens normalement.
Et bien, mon rôle, c'est d'aller en permanence encourager aussi les meilleurs.
Mais vous le faites aussi pour les autres pays?
Ben là, je vais en France parce que la France est le meilleur en Europe en matière d'investissement. C'est donc mon rôle que d'aller précisément accompagner, j'allais dire aussi peut-être un peu célébrer, si vous me permettez l'expression.
Cette 15 milliards, ça se célèbre, j'ai envie de dire.
C'est pour la cinquième année consécutive que la France est le numéro un en Europe en matière d'investissement étranger.
La France est le plus attractif d'Europe. Effectivement, ça veut dire qu'elle attire le plus de capitaux étrangers.
Voilà. Et donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire effectivement que la France sait attirer ses capitaux. C'est très important, encore une fois, pour notre avenir. On le voit cette année pour la transition numérique, avec beaucoup d'investissements dans le quantique, mais aussi évidemment dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, dans aussi la localisation. C'est essentiel, des data centers, des centres de données.
4 milliards d'euros annoncés par Microsoft, notamment, d'investissements en France.
J'ai vu que d'autres allaient le faire également, comme je crois Amazon Web Services. Ça veut dire effectivement que ça y est, enfin, les grands acteurs du numérique viennent installer leurs data centers en Europe, ce qui nous permet, nous, évidemment, de mieux contrôler et protéger les données de nos entreprises et de nos concitoyens.
Vous le disiez d'ailleurs, en Europe, mais plus spécifiquement en France, qu'est-ce qui a fait la différence?
Vous savez, ça fait encore une fois, comme je dis, 5 ans maintenant d'affilée. D'abord, évidemment, c'est le niveau de formation, c'est très important. On a en France, mais aussi en Europe d'une façon générale, 40% de nos concitoyens qui ont achevé des études supérieures. C'est très important, il faut continuer évidemment, il faut laisser personne au bord de la route, mais c'est un atout très important évidemment pour la compétitivité. C'est aussi, il faut le dire, qui est une énergie décarbonée, massivement décarbonée, la plus décarbonée.
Le nucléaire.
Bien entendu, grâce au nucléaire.
C'est un argument.
Mais un argument majeur, massif. D'abord parce qu'il produit cette énergie décarbonée et on sait qu'on va en avoir besoin massivement pour atteindre nos objectifs de 2050 de décarbonation, mais c'est aussi une énergie dont les coûts vont baisser. Je rappelle que la France est aussi le premier pays exportateur d'électricité décarbonée. C'est donc un rôle tout à fait privilégié. Il y a aussi évidemment la situation géographique de la France qui est importante, ses infrastructures routières, ferroviaires. Donc tout ça, évidemment, pèse. Et puis une politique, il faut le dire aussi, incitative. C'est très important. Ne soyons plus naïfs, et on est plus naïfs maintenant au niveau européen. Les Américains procèdent à des subventions massives, on l'a vu notamment avec l'Inflation Reduction Act, vous savez, cette fameuse IRA, IRA, où ils ont massivement investi.
Ils ont tordu le bras à l'économie d'une manière artificielle.
Mais ils ont massivement subventionné précisément les industries, notamment les industries. Et on fait pareil, on doit faire aussi, il faut être absolument pragmatique, donc il faut effectivement que nous fassions pareil. Et on a fait pareil nous aussi au niveau européen avec une loi qui s'appelle NetZDI, qui maintenant est décliné et dont on commence à voir les résultats, et en particulier en France, dans les batteries, dans l'éolien, dans les panneaux solaires, dans tout ce qui va contribuer précisément à cette décarbonation. Et il y a aussi tout ce qui se passe en Chine, où on voit qu'on a du dumping. Donc, ne soyons pas naïfs, on n'est plus naïfs au niveau européen. Et c'est la traduction de cela.
C'est pas seulement nos tout à l'heure concurrents, à la Chine et les États-Unis, ça devient presque nos adversaires, parfois, sur ce terrain de jeu de l'économie.
Mais bien entendu, et c'est absolument clair, nous sommes aujourd'hui dans une compétition mondiale qui n'a jamais été aussi féroce. Et on voit bien que pour lutter contre notamment le poids que représentent la Chine ou les États-Unis, seul le niveau européen nous permet d'y répondre. C'est quelque part, vous savez, ce que tous nos concitoyens européens ont compris, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans les élections à venir, il n'y a plus un parti qui dit qu'il faut quitter désormais l'Europe. Je crois qu'enfin, tout le monde a compris que l'Europe ensemble, c'est l'Europe qui protège.
On va revenir sur l'Europe, d'ailleurs, qui protège et qui va même jusqu'à l'Europe de la défense. Vous êtes, je le disais, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, mais vous avez également dans votre portefeuille les questions de la politique industrielle, on vient d'en parler, mais aussi du numérique, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace. Thierry Breton, vous disiez, au fond, ce sont nos concurrents, mais ils sont aussi concurrents entre eux. Quand vous voyez que Joe Biden annonce qu'il va vouloir taxer à 100% les voitures électriques chinoises, est-ce qu'il faut faire la même chose ?
Alors, cette annonce qui a été
c'est à la une du journal Les Échos ce matin.
Dans le contexte des élections à venir, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis ? Je rappelle que les États-Unis, c'est 15,5 millions de véhicules produits aux États-Unis, et c'est quelques dizaines de milliers importé en Chine. Donc on voit bien que cette annonce, c'est une annonce politique, Pauline de Malherbe. Mmh. Et ceci dit, il ne faut pas être ni dupe ni naïf. Et nous ne le sommes pas au niveau européen, puisque nous avons décidé, du reste, d'ouvrir une enquête sur les véhicules chinois, les véhicules électriques chinois qui viendraient en Europe.
Mais vous avez dit qu'il ne fallait pas être naïf.
Non,
est-ce,
donc
est-ce, qu'au fond, le président américain ne montre pas que nous, on est un peu naïfs et que lui, il y va.
On verra ce qu'il va faire, on va voir, parce qu'il y a évidemment derrière tout ça des jeux de rétorsion. Donc il faut toujours être extrêmement attentif à ce type de démarche. Alors vous pouvez le faire quand vous...
Il montre les muscles, quoi.
Ça concerne zéro pour lui. Il n'importe pas de machine, il n'importe quasiment pas de voiture électrique chinoise. Donc on voit bien que c'est un acte politique. Bon, en ce qui nous concerne, c'est pas le cas. On importe des voitures électriques. Donc effectivement, l'enquête a été lancée. Les conclusions vont aboutir, je l'espère, avant l'été, dans les quelques semaines qui viennent. Et il faut s'attendre, effectivement, en tout cas, je ne veux pas anticiper, mais il faut s'attendre à un rééquilibrage parce que il faut de la réciprocité, c'est évident.
Un rééquilibrage, ça veut dire que vous pourriez, alors on comprend bien que vous estimez que Joe Biden va trop loin et qu'il va trop loin aussi parce qu'au fond, s'il n'y a plus de voitures chinoises électriques qui rentrent aux États-Unis, ça ne fera pas une grosse différence. Mais enfin, est-ce que vous vous dites, on peut aller jusqu'à des taxes extrêmes comme ça sur les véhicules chinois ?
On va commencer par voir la réalité. L'enquête est en cours.
Pour
elle est bientôt achevée. L'enquête est en cours. Elle est bientôt achevée. On va le voir donc. Réponse attendue, encore une fois, dans les semaines qui viennent. On va bien entendu voir ce qui va se passer. Pas dévoiler ce qui va se passer, mais on peut s'attendre à un rééquilibrage, on verra bien. Il n'en demeure pas moins que derrière, et c'est là où il faut pouvoir mener, Apolline de Malherbe, des rapports de force désormais. Mmh. Un seul pays ne peut pas lutter contre la Chine, c'est une évidence. En revanche, l'Europe, qui est le premier marché intégré au monde, c'est un enjeu majeur et ça nous permet de faire de la balance dans les rapports de force avec la Chine et en particulier, parce que vous savez qu'est-ce qui va se passer en particulier lorsque vous augmentez des droits de douane sur tel ou tel type de produit, généralement la partie adverse
va faire monter les douanes sur
d'autres produits.
Le cognac, le vin ou je ne sais quoi.
Et donc ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir des relations, encore une fois, de rapports de force sur l'ensemble de la chaîne et des chaînes de valeur, et c'est ce que nous nous efforçons de faire au niveau européen. Et je le redis, aucun pays au monde, regardez ce qui se passe, j'allais dire tragiquement, en Grande-Bretagne, qui est maintenant désormais laissé pour compte, aucun pays au monde ne peut faire des rapports de force avec des géants que sont la Chine, les États-Unis aussi, si nous ne pesons pas collectivement ce que nous pesons. C'est toute l'ambition, la volonté et la détermination du projet européen collectif à 27, à 450 millions de consommateurs, premier marché intégré.
On sent bien que pour vous, Thierry Breton, c'est aussi le moment de plaider l'Europe. Quand vous entendez que Gabriel Attal dit, à propos de cette campagne européenne, on est à moins d'un mois désormais donc des élections européennes, il dit, Gabriel Attal, le RN est dehors. Dehors, en dehors de l'Union européenne. Il résume les choses ainsi. Le débat de cette élection, c'est dedans ou en dehors de l'Union européenne à propos du RN.
Mais il a raison. Il a raison, mais vous savez, le Rassemblement National, et j'allais dire les extrêmes, et je les connais bien les extrêmes, notamment les extrêmes au Parlement européen, ils ont eu pendant des années, et c'est leur ADN, ne l'oublions jamais, la volonté farouche de sortir de l'Union européenne, par tous les moyens. C'était on sort de l'Europe, on sort de Schengen, on sort de l'euro. Et c'était vraiment la ligne politique. Est-ce que vous croyez que cette ligne politique, elle a changé, Apolline de Malherbe ? Absolument pas. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont vu, les extrêmes ? Ils ont vu que désormais, ce n'était plus populaire. Parce que qu'est-ce qu'ont compris nos concitoyens européens ? Regardez avec le Covid, par exemple, on a réussi à protéger, à vacciner, nous, tout seuls, l'Europe.
Oui, mais quand vous regardez les sondages, vous avez vu peut-être celui de l'Ouest-France.
Je vais y revenir. Vous croyez que si on n'avait pas été ensemble, l'Union européenne, le continent européen, on aurait pu vacciner, être le premier continent à vacciner nos concitoyens et l'ensemble des pays du monde avec les vaccins ARN messager ? Vous pensez que si on était dépendant de la Chine ou de la Russie, comme le veulent les tenants et aboutissants de l'extrême droite, le vaccin Sputnik ou le vaccin chinois nous aurait sauvés. Regardez combien de temps la Chine a dû rester confinée parce que ça ne marchait pas. Donc ça, c'est l'Europe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont compris que effeuiller la marguerite de l'extérieur, ça marchait plus. Donc, ils ont arrêté de dire qu'ils voulaient sortir, mais le projet est le même. Maintenant, ils veulent plus détruire l'Europe de l'extérieur, en effeuillant la marguerite, mais de l'intérieur. Donc maintenant, ils sont effectivement à l'intérieur, et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Eh bien, en permanence, cisailler tous nos fondements, c'est-à-dire continuer à faire des alliances officieuses, ne soyons dupes de rien, et notamment avec les autocrates. Parce que si vous pensez que l'extrême droite a rompu avec la Russie de Poutine, on se trompe, on le voit du reste. Aujourd'hui, partout où l'extrême droite revient en Europe, vous avez effectivement la Russie, Poutine, les fake news qui reviennent.
L'extrême droite européenne, c'est l'ennemi.
Mais ne nous trompons pas. En tout cas, pour eux, l'Europe, c'est l'ennemi. Et je voudrais le dire de façon très claire à nos concitoyens.
On sent que vous êtes en campagne quand même.
Mais bien sûr, je suis en campagne parce que c'est existentiel ce qui est en train de se passer. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire je suis contre l'Europe de l'extérieur, mais attendez, non, maintenant je suis dans l'Europe, mais je suis contre l'Europe de l'intérieur sans expliquer ce que ça va vouloir dire à nos concitoyens. Oui, ils sont en campagne contre l'Europe de l'intérieur, c'est-à-dire cisailler méticuleusement, pas à pas, tous nos projets européens et tout ce qui nous met ensemble pour être plus forts. Ça ne veut pas dire, encore une fois, abandonner nos souverainetés, contrairement à ce qu'ils disent, absolument pas. Ça veut dire savoir se mettre ensemble, comme on a su se mettre ensemble, que je l'ai dit tout à l'heure, pour la pandémie, comme on sait se mettre ensemble désormais pour produire plus et mieux ensemble en matière d'industrie de défense, comme on a su se mettre ensemble aussi pour lutter contre les conséquences de la guerre en Ukraine en ce qui concerne nos dépendances au gaz, et où on a pu substituer ces dépendances grâce à une interconnexion exceptionnelle.
Mais précisément sur cette question du coût et des voitures électriques, une des attaques notamment de Jordan Bardella sur l'obligation de ne plus vendre de véhicules thermiques à partir de 2035, Jordan Bardella est contre et il dit ça va augmenter nos tarifs d'électricité et notre dépendance, dit-il, en matière de métaux rares à l'égard de la Chine. Que répondez-vous ?
Non mais Jordan Bardella, encore une fois, il fait sa campagne. Moi, je connais très bien ce sujet.
Mais ça marche. Vous l'avez vu, les sondages le donnent à plus du double de la candidate macroniste.
Une campagne, c'est fait précisément pour expliquer. Je comprends très bien les mécontentements. Je comprends très bien qu'on veuille détourner ces élections pour en faire des mi-termes à la française. Je comprends tout ça. Je suis dupe de rien. Et vous savez, je vais même vous dire une chose. Notre rôle à nous, acteurs politiques, nous sommes acteurs politiques, c'est évidemment d'écouter ce qui se passe. Et puis voilà, moi je suis de ceux qui respectent évidemment l'intégralité des électeurs.
Alors si on répond précisément, est-ce que cette interdiction des véhicules thermiques entraînera une hausse des tarifs d'électricité et est-ce que ça entraînera une dépendance accrue à l'égard de la Chine et des métaux rares ?
Je vais vous dire, je vais faire une révélation. Mais j'étais de ceux, et je continue à dire qu'il faut être très attentif sur cette évolution, donc qui avait proposé plutôt 2040. Maintenant, le Parlement européen et le Conseil européen, c'est-à-dire les 27, ont décidé 2035. Je rappelle que c'est pas la Commission qui décide. Ce sont encore une fois les électeurs.
Vous avez un doute sur ce 2035?
Non, non, non. J'ai toujours dit qu'il fallait maintenant se mettre ensemble et avoir ce que j'ai appelé route 35, c'est-à-dire un processus où tous les trois mois maintenant, j'engage avec l'ensemble de l'écosystème automobile, de ceux qui fabriquent les chargeurs, de ceux qui permettent d'avoir une interconnexion européenne.
Et nous avons mis,
c'était quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté, comme quoi si M. Bardella était un peu plus présent au Parlement européen, il le saurait.
Tac.
Non mais c'est une réalité, voilà.
Allez-y, j'ai bien compris, vous l'assumez, vous dites que vous êtes en campagne.
Il faudra lui rappeler qu'en 2026, j'ai insisté pour qu'il y ait une clause de révision. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on va réviser la date de 2035, mais on va tous se mettre autour de la table, 2026.
On n'est pas arc-bouté sur 2035.
Non, mais on va tous se mettre autour de la table, et précisément, c'est ça le pragmatisme européen. Pour être plus fort, voir s'il va falloir investir davantage, peut-être pour produire plus d'interconnexions, peut-être pour avoir plus de bornes et de recharge électrique dans tous les pays de l'Union européenne, et non pas aujourd'hui dans quelques-uns, comme c'est encore le cas. Évidemment, renforcer nos chaînes d'approvisionnement, mais ça, on le fait massivement maintenant avec des accords multilatéraux, bilatéraux Europe, avec un certain nombre de pays qui sont des pays producteurs de ces minerais rares. Donc tout ça, évidemment, c'est en route. Donc qui ne s'inquiète pas, on est en route, on a nos clauses de rendez-vous et on fonctionne, encore une fois, ensemble, en respectant les diversités des uns et des autres, mais en ayant un but commun et en se donnant les moyens.
Thierry Breton, à propos de la défense, d'abord ce qu'il se passe sur le front ukrainien, la Russie qui ces derniers jours a remporté un certain nombre de victoires et qui se rapproche de Kharkiv, est-ce que vous vous dites qu'au fond, l'Ukraine est peut-être en train de perdre cette guerre ?
Non mais, encore une fois, les observateurs politiques et militaires le disent en permanence, y compris sur vos plateaux, Pauline de Malherbe. Et c'est vrai que la période qui s'ouvre est une période qui est une période dangereuse pour l'Ukraine. Parce que là encore, on n'est dupe de rien. Nous sommes dans une période maintenant où nous-mêmes nous sommes en élection. Les États-Unis vont entrer en élection, ils rentrent maintenant en campagne, on vient d'en parler il y a quelques
temps.
Donc
les Russes profitent de ce temps d'incertitude.
Mais bien entendu.
De flottement.
Mais bien entendu. Donc bien entendu pour eux, c'est une opportunité que d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous, Européens, nous avons décidé d'augmenter très sensiblement nos dotations en matière d'armement et de défense auprès de l'Ukraine, que ce soit les munitions. Je rappelle qu'on est maintenant en perspective d'atteindre plus de 2 millions de fabrications d'obus sur le territoire européen, et notamment les gros calibres à 155 pour pouvoir les fournir plus rapidement à l'Ukraine. Enfin, les États-Unis, après 18 mois de tergiversation, c'est compliqué la démocratie américaine, plus compliquée que celle européenne, du reste, par parenthèse. Enfin, ils ont voté donc ces subventions, ces soutiens à l'Ukraine. Je constate que beaucoup d'équipements étaient prépositionnés, notamment dans les pays limitrophes, en particulier les fameux missiles antimissiles, donc Patriot, pour pouvoir protéger l'espace aérien ukrainien. Donc tout ceci maintenant est en route. Oui, vous avez raison. Il faut aller vite.
Encore plus vite et plus loin quand vous entendez Volodymyr Zelensky qui demande davantage d'armes et il dit il y a urgence.
Moi, en tant que commissaire aux industries de défense de l'ensemble du continent européen, je dis oui, bien sûr, il faut aller encore plus vite et encore plus loin. Et je voudrais vous dire ici que les industries de défense se mettent vraiment maintenant en mouvement.
Est en économie de guerre.
Alors, en tout cas, sur les munitions, ça, je vous le confirme. C'est ce qu'on a fait dans les munitions. On a réussi en moins d'un an à doubler la capacité de production de munitions. Et dans l'année qui vient, on va la redoubler encore. Donc oui, sur ce segment, on est passé en économie de guerre. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'on passe en économie de guerre sur tous les segments de l'industrie de défense européenne et qu'on le fasse évidemment, là encore, au niveau européen. Parce que vous voyez, on parle des munitions, il faut de la poudre, il faut du TNT, il faut faire les enveloppes de ces obus. Et tout ça, ça nécessite des chaînes de valeur un peu réparties différemment au niveau européen. Donc il faut pouvoir avoir un contrôle global des chaînes de valeur pour pouvoir réaliser ce qu'on est en train de réaliser. C'est vital, je le redis, de continuer à soutenir l'Ukraine dans son combat. Son combat nous concerne, il est existentiel pour nous également.
Thierry Breton, vous êtes commissaire européen depuis 2019 et avant cela, vous étiez le patron d'Atos. Atos, c'est une entreprise qui est aujourd'hui dans la tourmente, dans une situation budgétaire complexe et elle a donc jusqu'à la fin du mois pour tenter de trouver une solution. Quand vous regardez et quand vous demandez, et vous avez bien raison, quand vous veillez à ce que la France respecte ses engagements budgétaires, est-ce que vous vous dites a posteriori que vous avez manqué de sagesse ?
Alors écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai quitté l'entreprise, cette entreprise était numéro un en matière de cybersécurité et de services de cybersécurité en Europe, numéro un en matière de supercalculateurs, tellement important pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour des applications plus militaires, qu'elle était numéro un dans le cloud privé, qu'elle était numéro un dans la fabrication et dans la gestion de data centers.
Mais notamment parce qu'elle avait acheté, parce qu'elle avait investi.
Comme toutes les entreprises, quatre acquisitions en 11 ans.
2,9 milliards d'euros dans l'achat de Syntel en 2021. Oui. Capital, le journal Capital disait que l'héritage de Thierry Breton, je cite, pèse lourd dans la chute d'Atos. Pour Alternative Économique, Atos avait été, je cite, victime de la folie des grandeurs de Thierry Breton.
Alors, je ne peux pas être d'accord à 100% pour une raison simple. C'est que vous parlez de Syntel, par exemple. Elle a été entièrement financée. Toutes les acquisitions, 4 uniquement, en 11 ans, ont toutes été financées par Atos elle-même. Et on a eu zéro dette nette durant toute la durée de mon mandat. Les deux dernières années, nous avons acquis Syntel. Syntel a été totalement remboursée parce qu'on avait aussi des actions qui ont été vendues. Et donc, un an après mon départ, Apolline de Malherbe, qu'est-ce que disaient ceux qui m'ont succédé? Mais elle disait qu'Atos avait zéro dette nette. Je dis bien zéro dette nette, vous avez bien entendu.
Après, c'est compliqué l'histoire zéro... de dette nette, de dette brute.
Bon. Non, c'est pas compliqué. C'est l'indicateur qu'on suit. Zéro dette nette, c'est très important. Et qu'elle était numéro un sur tous ces secteurs stratégiques. Il s'est passé que pendant deux ans, l'entreprise a continué à très bien performer. Deux ans après, il y a eu des tentatives d'acquisition majeures qui sont mal passées. L'entreprise a commencé à perdre la confiance des marchés. Cinq directeurs généraux se sont succédés. Ce que je peux vous dire, c'est que si, avec le conseil d'administration, nous avons fait Atos ce qu'elle était et comment elle est devenue en 10 ans un acteur absolument majeur pour la cybersécurité, pour la souveraineté numérique de l'Europe, si vous me permettez.
Allez-y.
Si nous avons réussi à le faire, avec l'ensemble du Conseil et l'ensemble des parties prenantes, sans endettement net, je le redis, c'est parce que c'était stratégique pour l'Europe. Alors, ce qui est formidable,
stratégique désormais
bien
pour
entendu,
la France.
Il y a 100 000 collaborateurs exceptionnels.
Il y a 100 000 collaborateurs
exceptionnels. Encore une fois, Apolline de Malherbe, c'était il y a 5 ans. Je ne sais pas où vous étiez il y a 5 ans, mais allez, voilà, on ne va pas dire que si jamais il y a des choses qui sont passées 2 ans après votre départ, c'est de votre faute, et ce sera bien normal.
En tout cas, vous plaidez les responsabilités là-dessus.
Donc, je dis uniquement ce qui était Atos, et je dis ce qu'elle est encore. C'est une entreprise très importante, et donc je me réjouis qu'on soit en train de trouver une solution, parce que cette entreprise a un formidable avenir.
Je rappelle que la France, effectivement, donc, a déposé une offre de rachat de 700 millions à 1 milliard d'euros pour les parties stratégiques. Merci Thierry Breton d'être venu répondre à mes questions avant Versailles, donc vous qui êtes commissaire européen au marché intérieur, 8h53.